France Inter, le 18-20.
Épuisement, détresse, souffrance, ras-le-bol, colère, désespoir, les services d'urgence sont au bout du rouleau, ils le disent, depuis des semaines d'ailleurs. Au bout du rouleau, ça veut dire un flux de patients en constante augmentation, 3,5% à peu près chaque année, et ce depuis 20 ans. On est passé aux urgences de 10 à 21 millions de personnes. Alors manque de lits, manque de personnel, ce qu'on laisse dans le couloir, qu'on n'a pas le temps de voir plus de quelques minutes, une tension extrême, un système en surchauffe totale, et ces images, ces récits, on a l'impression de les connaître, on les a déjà vus, on a aussi déjà vu d'ailleurs des urgentistes avec un brassard noir marqué en grève. Sauf que cette fois, pour que les soignants soient entendus réellement, ceux de la Riboisière, les premiers se sont mis en congé maladie, c'est aussi ça qui a fait réagir, après l'agression également à Saint-Antoine qui a fait démarrer ce mouvement. La ministre a répondu, elle aussi, elle l'a fait cet après-midi. Elle a notamment nommé un chargé de mission qui est là avec nous et on parlera des mesures qui ont été annoncées, notamment certaines primes, mais pas seulement. Les urgences, appel au secours, on en parle ce soir. Soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le Téléphone Sonne.
Florian, bonsoir, c'est vous le premier, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y Florian.
Moi je suis médecin urgentiste sur Nantes et Saint-Nazaire depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Ce que je constate en discutant avec mes collègues depuis des années, c'est qu'on voit la dégradation progressive de notre profession, de notre milieu professionnel en fait, puisque c'est pas que les urgentistes, c'est les paramédicaux. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que le mouvement est essentiellement porté par des paramédicaux. Voilà, vous venez dire en introduction qu'on a doublé le nombre de passages aux urgences en 20 ans. Moi, je le ressens, c'est-à-dire qu'à Saint-Nazaire, quand on avait plus de 200 passages jour il y a 5 ans, c'était des journées assez chargées. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Voilà, avant-hier, j'arrive pour travailler, j'entends Agnès Buzyn à la radio. J'arrive et je découvre 20 patients en attente d'hospitalisation qui pour lesquels on n'avait pas de lit en fait, qui étaient restés toute la nuit sur des brancards. Hier, même situation, mais cette fois-ci c'était 30 patients, dont 20 qui avaient plus de 80 ans. Et ça, c'est notre quotidien, ça nous use. Mais pas que les urgentistes, encore une fois. Et le problème de la réponse de Madame Buzyn, c'est qu'elle ne s'adresse qu'aux urgentistes.
Et Dieu sait que, et vous qui êtes urgentiste, si même un urgentiste dit qu'il faut s'adresser plus loin que les urgentistes, ça dit aussi l'ampleur de la crise. Merci beaucoup Florian pour cette entrée en matière et ce démarrage qui nous permettra d'entrer dans la conversation de plein pied et ensemble jusqu'à 20h avec nous. Hugo Huon est là, pardon. Bonsoir Monsieur Huon. Vous êtes infirmier à l'hôpital de la Riboisière. Vous êtes membre du collectif Interurgence qui se mobilise donc depuis le 18 mars, si je ne m'abuse. Et bonsoir Thomas Meynier.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche de Charente et vous venez d'être chargé d'une mission au Conseil national de l'urgence hospitalière chargée d'adapter les urgences aux nouveaux besoins de santé. Je ferme les guillemets, c'est comme ça que ça a été présenté, mais vous nous expliquerez effectivement ce que vous allez faire dans les prochaines semaines et prochains mois. Précisément, j'aimerais qu'on en vienne à ce que nous raconte Florian. Hugo Huon, j'imagine que vous vous retrouvez dans ce que dit Florian, effectivement. Ça commence aux urgences, ça essaime évidemment sur l'ensemble de l'hôpital. Lui parle de tous les jours 200 patients, par exemple à la Riboisière. J'imagine que ça ressemble à quoi ?
À la Riboisière, la moyenne, c'est 250 patients par jour. Ce que dit Florian, c'est tout à fait vrai. Là, en fait, il faut distinguer deux choses. C'est un, les conditions d'accueil, donc avec une perte de chance pour les patients à l'heure actuelle qui fréquentent nos urgences. Et deux, les conditions de travail, avec une souffrance du personnel. Quand Florian parle d'urgentiste, en fait, je pense qu'il ne parle pas d'ouvrir au grand public, mais c'est-à-dire que chez nous, on fait la distinction. Un urgentiste, c'est un médecin. Mm-hmm. Et les infirmiers aides-soignants sont appelés soignants.
Mm-hmm. D'accord. C'était votre phrase de conclusion, pardon, ça s'arrête d'un coup. Vous m'avez surprise. Thomas Meynier, c'est exactement ce que décrivent des gens comme Hugo, ce que décrivent d'autres aussi, ce que décrit notre auditeur Florian. En effet, et ce sont des images, pardonnez-moi, qu'on a l'impression d'avoir vues X fois et qu'on n'a jamais réellement réglées, en fait. Celles des patients sur des brancards, qui attendent la nuit entière, qui n'ont pas de chambre, et qui restent et qui souffrent aussi, parce qu'aux urgences, en général, quand on y va, c'est qu'on a mal.
Mais oui, et moi aussi, je me reconnais parfaitement dans le témoignage de Florian, parce qu'en avant d'être élu député La République En Marche, je suis médecin urgentiste. Et a priori, je pense qu'à quelques mois près, on doit être de la même promotion avec votre auditeur. Et je faisais pas de politique avant. Moi, je me suis engagé aussi pour ça, pour essayer de changer les choses. Alors, depuis 2 ans, on a mis mis en place de nombreux plans, réformes. On est en train, la loi santé au Sénat, c'est pour ça qu'Agnès Buzyn est mobilisée en ce moment à temps plein sur le Sénat. On a des réformes structurelles qui attendaient depuis 20 ans d'être réalisées, notamment sur la réorganisation de la médecine de ville pour faire baisser la tension sur les urgences. Et aujourd'hui, elle m'a confié une mission supplémentaire avec le Conseil national des urgences. Et puis avec, j'espère bien pouvoir le faire, vous, les paramédicaux et le collectif qui se mobilise depuis 2 mois, pour travailler ensemble, pour trouver des solutions complémentaires, peut-être plus immédiates, plus efficaces, pour améliorer la vie aux urgences.
J'allais vous poser la question, une mission c'est une chose, et le temps de la concertation c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place là, tout de suite, demain, plus rapidement en fait, pour au moins calmer cette colère et qu'on puisse retourner au travail dans de meilleures conditions dans les services d'urgence?
Si la solution miracle existait, j'ose imaginer qu'on l'aurait mise en place. Elle est venue ce matin avec des annonces fortes devant le monde de l'urgence au Congrès. Elle a répondu à une partie de vos revendications, avec notamment la prime de sécurité qui va être déployée sur tout le territoire. Maintenant, on a des idées. Moi, j'ai des idées venant du terrain. On en a mis certaines dans la loi qui est en cours d'examen au Parlement. Je pense que il faut travailler ensemble dans un climat tout à fait serein de discussion, construire ensemble pour finalement réinventer un petit peu le système des urgences actuelles.
Hugo Bon, est-ce qu'on en parle là de ces mesures annoncées par la ministre? Prime de risque, prime de coopération, en gros. Enfin, ce sont les deux primes qui existent déjà, qui vont être gonflées. Celle de sécurité, notamment, elle est de 97,69 € aujourd'hui, si je ne m'abuse.
Oui, alors juste pour revenir sur ce matin, pour reprendre Mme Buzyn qui disait qu'elle était avec ceux qui s'expriment. En fait, ceux qui s'expriment, les lanceurs d'alerte, sont dans la rue depuis plus de 3 mois. Et elle s'est adressée à eux juste 3 fois à la radio. Sans que ce soit satisfaisant à chaque fois. Sur ces primes, en fait, la première, que moi j'appelle la prime Hirsch, parce que c'était lui en premier sur la PHP qui l'a mis en place, par un effet de communication...
La prime Hirsch, que Martin Hirsch,
c'est ça la prime travail indemnité, okay. Insalubre, dangereux, etc. En fait, c'est un effet de communication de dire que c'est 70 € net par personne, parce que en l'occurrence, la plupart des services d'urgence le touchaient, alors de manière aléatoire, en l'occurrence, à l'arrêt Boisier, on touchait peut-être 30 €. Donc ça fait en fait une majoration de 10 à 20 € net par soignant, ce qui est ridicule quand on par rapport aux revendications qui sont exposées. Ensuite, les protocoles de coopération, ça, il faudra le revoir, donc ce sera étendu sur les urgences. Donc, c'est délégation du médecin à l'infirmier, et c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est-à-dire, pas pour les aides-soignants non plus, mais ça, on le refuse, parce qu'on veut, une prime pour tous, parce que les conditions et le danger au travail, elle est même pour tous.
Thomas Meynier, pardon, là-dessus. Et oui. Notamment sur la valeur de cette prime, donc 10-20 €, au bout du compte.
C'est-à-dire que cette prime, d'abord, elle n'est pas mise en place partout, et quand elle l'est pas forcément en totalité. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire. Donc là, l'idée, c'est de la déployer partout sur le territoire, à son taux le plus haut, donc 97 €. Je crois que c'est une reconnaissance aussi des difficultés du travail aux urgences. Je sais que vous demandiez plus. Après, ça représente aussi énormément d'argent. Je pense que, mine de rien, sur le mois, ça se sent quand même. Et c'est une reconnaissance supplémentaire. Et puis, la prime de coopération, c'est quelque chose qui va être créé aux urgences avec, justement, et ça va être une partie du travail qu'on va avoir à mener ensemble, pour créer des coopérations, des délégations de tâches entre les médecins et les différents soignants, pour que des infirmiers, mais pourquoi pas des aides-soignants aussi, puissent la toucher. Parce que je crois que de toute façon, globalement, il faut absolument pas ne parler qu'aux médecins, il faut parler à l'ensemble du personnel soignant des urgences, pour que chacun se retrouve dans les solutions qu'on va apporter.
Jusqu'à présent, qui les touche ces primes d'ailleurs, jusqu'à quel niveau, Hugo Bouillon?
De coopération, ouais. Personne à l'heure actuelle.
D'accord.
Et la prime indemnité, là, c'est tous les soignants... aux urgences, je pense, mais en fait, non, c'est toute la fonction publique, plusieurs catégories.
Alors, sur la prime de sécurité, c'est un peu à la discrétion du directeur de chaque hôpital, en fonction des contextes, savoir s'il y a eu des violences ou pas, et c'est le directeur qui choisit, je crois, le niveau auquel il la donne.
Mais c'est pas que la FPH, pour le coup.
Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Éric, on vous écoute.
Merci. Je voulais simplement réagir, m'associer déjà à la première intervention que j'ai entendue. Ensuite, quant aux revendications et puis au ministre, Madame Buzyn, qui les satisfait ou pas, il me semble que, bien sûr, la prime est quelque chose qui est très bien, qui viendra valoriser certainement le travail de professionnels qui sont en grande difficulté. Mais moi, qui ai été cadre pendant très très longtemps, j'ai vu l'hôpital se réorganiser toujours autour des mêmes choses, c'est-à-dire à moyen constant, voire à moyen en baisse, alors qu'en effet, après, les urgences, mais comme tous les autres services de l'hôpital, fermaient des lits d'aval qui étaient beaucoup moins nombreux, donc qui faisaient que les urgences parfois voyaient leurs patients ne pas pouvoir quitter les urgences pour aller vers d'autres lits. J'ai assisté à une charge de travail qui est devenue de plus en plus importante, et aujourd'hui j'entends des professionnels, qu'ils soient des urgences ou d'ailleurs, hein, puisque je suis formateur et j'interviens un peu partout en France auprès de professionnels de santé, qui disent à peu près tous la même chose, c'est-à-dire à la fois leur burn-out, en tout cas leur fatigue professionnelle, leur démotivation, quel que soit le service, et je ne suis pas convaincu que la seule prime puisse être une réponse satisfaisante aux différentes revendications. Et encore une fois, je crois qu'il faut véritablement étendre nos craintes, nos attentes, au-delà des services des urgences, mais bien à la santé, à l'hôpital public tel qu'il est, parce que je crains, enfin, si aujourd'hui on n'a pas trop d'erreurs et pas trop de problèmes médicaux sérieux, c'est aussi grâce à des infirmières compétentes, à des aides-soignants compétents qui vont au-delà parfois de leurs prérogatives, sûrement souvent au-delà de leur fatigue, pour assurer des soins dans des conditions qui sont vraiment pitoyables.
Merci.
Et je le dis avec d'autant plus de facilité que je ne suis plus aujourd'hui soignant, ni même cadre de santé, simplement formateur. Voilà, je voulais leur rendre hommage.
Merci beaucoup, on vous a entendu. Eric, merci beaucoup. Hugo, on peut répondre d'abord et puis ensuite Thomas Mélier.
Merci. Alors là, évidemment, les revendications qu'on a, elles sont pour les urgences, mais il serait légitime que tous les soignants hospitaliers soient revalorisés, parce que le salaire qui est touché par ces soignants par rapport au travail qui est fait, c'est juste scandaleux. Sur les urgences, les revendications, elles sont triples en fait. C'est structurel, donc notamment les d'aval, comme vous le dites. Mmh. C'est aussi les effectifs. Il faut renforcer les services. Mais on se rend compte que même quand on a les postes qui sont budgétés, en fait, les agents ne restent pas en poste. On a du mal à recruter. On a du mal à recruter parce que le travail est tellement compliqué à l'heure actuelle que les gens s'en vont en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi augmenter la revalorisation salariale. Juste, monsieur, oui. Quand on s'était rencontré à l'Assemblée il y a quelque temps, monsieur Meignet avec monsieur Véran, et on avait évoqué ces 300 euros là, et ni la légitimité ni le montant n'avaient été remis en cause à ce moment-là. Et du coup, les revendications, donc là on sort de manifestation, on a été reçu par monsieur Bubien, et ce qu'il en ressort, donc clairement cette prime est inefficace, enfin pas adaptée, et le message fort qui est passé, c'est en gros on va élever le plafond des heures supplémentaires possibles, c'est-à-dire que si vous voulez gagner plus d'argent, vous pouvez travailler plus à des soignants qui sont déjà épuisés.
Thomas Meignet là-dessus, et puis j'ai une question subsidiaire, parce qu'on a entendu notre ami Eric nous parler de réorganisation à moyen constant. Dans les mesures qui ont été annoncées, on parle d'une refonte des urgences. Vous allez pouvoir en discuter et refondre, mais est-ce que là aussi, il faut un moment parler argent? Est-ce qu'on parle de moyens constants ou pas?
Alors, j'aime pas en faire une bataille de chiffres et d'argent, parce que avant tout, c'est de l'humain chez les soignants et chez les patients. Il y a d'abord cette revalorisation salariale, finalement, avec la prime. Il y a aussi le fait que Agnès Buzyn a dégelé 400 millions d'euros, et puis elle en avait déjà débloqué 300 millions d'euros auparavant dans les derniers mois. Et elle a aussi augmenté les tarifs hospitaliers. C'est la première fois depuis 10 ans et ça avait été salué unanimement par le monde de la santé.
Donc
ça
la refonte se fait à argent constant.
C'est-à-dire qu'on a dégelé des crédits, on augmente les tarifs hospitaliers. Ça a permis en quelques mois de réduire par moitié la dette hospitalière. Donc ça redonne de l'air à nos hôpitaux. Après, elle a annoncé ce matin des moyens pour moderniser les services d'urgence dans le cadre de ces crédits dégelés, avec consigne aux directeurs d'hôpitaux de flécher en priorité cet argent vers les services d'urgence.
Mais du coup, ça rejoint la question de Luc qui nous a écrit sur franceinter.fr. Est-ce que ça veut dire que le problème vient seulement d'un manque d'argent, ou est-ce que c'est un problème d'organisation? Quand je vous entends, au fond, c'est que de l'organisation. Si je posais la question à Hugo Vouan, je le ferais aussi, on a plutôt l'impression que c'est plutôt un manque d'argent de ce côté-là. Il doit bien y avoir un peu des deux, Thomas Meignet, non?
Il y a un peu des deux, c'est pour ça qu'on dégèle et qu'on augmente les tarifs hospitaliers. C'est la première fois en 10 ans, je le répète, parce que c'est quand même assez important pour le signaler. Et puis après, il y a des questions d'organisation, c'est un fait. Les services d'urgence, on en parle systématiquement, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est le révélateur, le symptôme d'un système de santé qui est à bout de souffle, parce que c'est à la fois la porte de sortie de la médecine de ville. Quand on n'a pas trouvé de solution, on arrive aux urgences parce qu'on n'a pas d'autre choix, et c'est en même temps la porte d'entrée de l'hôpital. C'est là que se concentrent toutes les difficultés. Donc, avec le plan et la loi Ma Santé 2022, on veut réorganiser complètement notre système de santé par la médecine de ville, mais aussi la médecine hospitalière. Ça, ce sont des réponses, mais qui vont appeler un peu de temps pour se mettre en place et donner leurs premiers effets.
Hugo Vaughan, avant qu'on retourne au standard.
Oui, juste sur cette question d'organisation versus argent. Ouais. Depuis les réformes hospitalières et le New Public Management, on demande beaucoup aux services de s'auto-organiser. Et tous les services ont des centaines et des centaines de comptes rendus, de réflexions qu'ils ont pu essayer de tenter pour améliorer la prise en charge des patients à moyen constant. Et ça marche pas. Enfin, on le voit là sur ce qui était décrit par Madame Buzyn comme un problème d'organisation locale. Aujourd'hui, plus de 80 services d'urgence sont en grève. On voit bien que c'est un constat qui est global.
Je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Allô, oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, ben écoutez, justement, ça fait une bonne transition par rapport à ce que je viens d'entendre. Oui, écoutez, il y a quelque chose qui me surprend dans cette affaire, c'est que juste, je me demande si cette affaire des urgences, c'est pas un symptôme plutôt qu'une maladie. Un symptôme de quoi? En fait, d'un défaut complet d'organisation des soins, je dirais, de premier niveau. Enfin, moi, je suis pas urgentiste, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses parmi votre travail qui pourraient être parfaitement pris en charge par la médecine de ville. Seulement, n'est pas médecine équipe de ville, la médecine est soignant. Simplement, la médecine de ville, désolé, fait des ordres de bureau. Alors, il est évident qu'à 17h30, pour des bricoles, je sais pas, poser deux points de suture ou parce qu'un gamin a de la fièvre.
17h30, faut peut-être pas pousser Jean-Pierre. Il y a des médecins qui travaillent plus longtemps que 17h30, des médecins
non,
de ville.
Je vous dis ça.
Parce que là, je les entends de l'autre côté du poste.
Parce que moi, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Je connais pas mal l'Europe du Nord en particulier. Bah, les équipes entières, villes, médecins, c'est-à-dire médecins, sages-femmes, infirmières, etc., sont 24h/24 disponibles et arrivent en première intention. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être prises. Vieux hors de bureau quand même, hein. Essayez 18h, bien souvent vous avez le répondeur, je suis désolé, vous essayez d'appeler pour une bricole, vous avez le répondeur, donc résultat, bah, vous allez aux urgences, et ça encombre, et je pense que les urgentistes gagneraient à s'occuper de soins qui sont vraiment importants, vraiment graves, et ça irait bouille. Les choses seraient plus simples s'ils ne prenaient pas en charge des choses qui me paraissent pouvoir être pris en ville raisonnablement par les médecins et les équipes de ville.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va y revenir un peu longuement parce qu'effectivement, on est un peu au cœur du sujet. Thomas Meynier, si c'était si simple, ce serait déjà réglé, non? S'il s'agissait simplement de demander aux médecins de ville de travailler plus longtemps que 17h30, ce qu'ils font d'ailleurs très probablement.
Ce qu'ils font. Alors, je partage une partie du constat. Il y a une grande partie des consultations aux urgences de patients qui n'ont pas besoin du plateau technique des urgences et qui finissent là. Je les en blâme absolument pas parce qu'ils ne trouvent pas de réponse en ville. C'est pour ça que dans le plan, et je ne veux pas mettre de bouc émissaire là-dedans, dans le plan Ma Santé 2022, on veut complètement réorganiser la médecine de ville, s'appuyer beaucoup plus sur toutes les professions de santé, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, pour partager un peu les compétences et pour s'organiser de façon pluriprofessionnelle pour justement gagner un peu de marge de manœuvre et permettre de voir davantage de patients de ce côté-là avant qu'ils soient obligés d'aller aux urgences.
S'appuyer plus sur la médecine de ville, Hugo Vaughan, de votre point de vue à vous, ça peut ressembler à quoi, en fait, très exactement? Il y a quand même des endroits ou des zones où c'est plus facile d'aller aux urgences, simplement parce que des médecins, par leur, il n'y en a pas non plus. Il y a aussi des zones qui sont des zones à problème et des zones désertiques. Est-ce que, là aussi, je vous pose la question de la même manière, en fait, est-ce que c'est que ça, en fait, réorganiser la médecine de ville? Est-ce qu'au moins ça suffirait pour que ça aille beaucoup mieux chez vous ou pas?
C'est Ma Santé 2022, les CPTS, c'est le pari qui est fait par la majorité aujourd'hui, de mettre les gens ensemble et qu'ils arrivent à discuter, à essayer et à faire des choses qui marchent. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les consultations aux urgences et c'est dramatique pour eux. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des personnes qui le font, c'est des gens qui ont des inégalités sociales de santé. Mmh. Les urgences font de l'aigu et souvent, ils viennent pour des problèmes qui sont chroniques. Et donc, il y a des gens à l'accueil qui nous demandent de remplir les déclarations de médecins traitants. On marche sur la tête et on répond partiellement à leurs problèmes de santé. Ils pensent qu'on a répondu, ils sont contents quand ils s'en vont, alors que c'est faux. Et on diminue l'espérance de vie comme ça des personnes en répondant partiellement. Ça, plus la saturation des locaux qui fait qu'on ne respecte pas la dignité des patients.
Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait refuser ces gens, par exemple, dont vous parliez, qui viennent juste pour effectivement faire signer un papier? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'il faudrait le faire?
Alors, il est possible de le faire si vous mettez un MAO, un médecin d'accueil et d'orientation. Et c'est un peu tout l'enjeu de cette mission nationale, si j'ai bien compris.
Donc le médecin d'accueil et d'orientation, en gros, c'est la première ligne. Il est avant, au moment où vous entrez. Oui. On vous demande déjà qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir vous refouler ou pas à ce moment-là, c'est ça l'idée?
Après l'inscription, après avoir vu l'infirmier. Okay. Vous voyez le MAO, mais à l'entrée des urgences, effectivement. Sauf que ce qui est discutable là-dedans et ce qui ne fait pas consensus chez les médecins, c'est que ce médecin qui pourrait réorienter des urgences vers la ville, en fait, le temps de voir le patient et de se dire « Ok, il peut aller en ville », il a déjà fait 75% de sa consultation.
et le patient a déjà passé combien de temps d'urgence dans ces cas-là, d'ailleurs, au fond?
Ça dépend. Si on parle d'un MAO, ce qu'on appelle les fast track, les circuits ultra courts. Je ne connais pas les indicateurs qualité. Je ne sais pas si c'est une heure, mais dans la plupart des services d'urgence, ou en tout cas à l'arrêt Boisière, on peut compter 4 à 5 heures.
Et si on est tous très honnêtes les uns avec les autres, sur un service d'urgence, je vais faire ça évidemment au doigt mouillé, imaginez qu'il y a 10 personnes, selon vous, il y en a combien qui, de fait, et s'ils étaient mieux informés, ou s'il y avait un meilleur système, ne seraient pas aux urgences? Est-ce qu'on dit 5? Est-ce qu'on dit 6? Est-ce qu'on dit 4?
Alors, ça a été un débat qui a eu lieu pendant les 10 dernières années, et tant et si bien que les sociétés savantes ont fini par modifier la définition de l'urgence en disant qu'on parle aussi d'urgence ressentie. Donc que les gens sont légitimes à venir.
Mais qui nécessite le plateau technique des urgences, on peut considérer que c'est à peu près la moitié qui n'en ont pas besoin, mais qui finissent là parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et que dans bien des cas, c'est la seule réponse H24, 7 jours sur 7, avec une lumière allumée.
Et que quand quelqu'un dit j'ai mal, on le renvoie pas chez lui, enfin je veux dire, ça fait partie de votre boulot, c'est pas comme ça que ça marche.
C'est le serment d'Hippocrate, c'est la déontologie de tous les soignants.
Et heureusement. Bonsoir Assia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Assia, allez-y.
Oui, bonsoir. En fait, je voudrais apporter mon témoignage qui est très frais, qui date de samedi dernier. En fait, j'ai fait une chute et donc j'ai été patiente aux urgences. Et d'abord, je voudrais dire que j'ai été absolument impressionnée par la qualité des soins qui m'a été faite, nonobstant les 5 heures que j'ai attendues. Néanmoins, j'ai été entourée de soignants qui sont des héros complets. Travaille dans des conditions, j'y reviendrai un peu plus tard. D'abord, je voudrais témoigner. Alors moi, dans mon cas, j'y étais donc un samedi soir. Et je peux vous assurer que j'étais entourée de personnes qui avaient besoin d'être là. Donc, lorsque j'entends le débat, voilà, pour moi, j'étais entourée de personnes qui avaient absolument besoin d'être là. Et en fait, je voudrais parler de l'état employeur. En fait, pendant mes 5 heures d'attente, j'ai observé ce qui se passait. Et j'ai été effarée par les conditions de travail de ces personnes qui prennent sur eux, mais dans des proportions qui ne sont pas humaines. Et en fait, pour moi, l'état employeur est coupable de faire travailler des gens dans des conditions qui sont à la limite du code du travail. Vraiment. Ces gens subissent un stress qui n'est pas humain. Ils subissent le stress du nombre de personnes qu'ils ont à traiter, de l'importance des décisions qu'ils prennent, du stress des patients qui attendent et qui sont en souffrance, et en plus d'un stress de manque de moyens qui leur échappe complètement. Je suis moi-même manager dans la vie et dans le privé, et voir des conditions de travail comme ça pour des collaborateurs, j'ai juste trouvé ça hallucinant. Et lorsqu'on entend les propositions du gouvernement, moi j'ai juste l'impression que ce sont des propositions de gens qui n'ont jamais été ni patients des urgences, ni praticiens des urgences. Parce que c'est hallucinant.
Merci Assia pour votre témoignage. Pardon de vous couper. Il faut qu'on puisse répondre non seulement à vos interrogations, mais à toutes les questions aussi qui tombent. Stress triple, Thomas Meynier. Vous qui êtes médecin, vous avez déjà été aux urgences ou pas?
En tant que patient, ouais. Il y a très longtemps, mais je les ai plus pratiqués en tant que médecin. Non, mais je comprends.
Ce stress triple, ce bord de burn-out, parce que c'est ça dont on parle en fait, ce bord de burn-out permanent, à un moment, on se dit, je vous poserai la question à vous aussi, Huguon, on se dit que ça met le patient en danger, au fond.
Ah mais on a toujours des situations très compliquées. Moi j'ai vécu des gardes où j'étais, avant d'être élu, où j'étais seul médecin pour 50 malades, voire un peu plus, dans mon service d'urgence. Oui, ce sont des situations parfaitement stressantes. Mais ça a participé de mon engagement justement en politique pour changer les choses. Alors j'entends que madame trouve que ça vient pas du terrain. Il se trouve que la ministre est médecin, que moi qui vais être chargé, je suis urgentiste, donc je connais quand même un petit peu les choses. On va travailler avec tous les représentants des soignants pour trouver des solutions supplémentaires. Mais il n'y a pas malheureusement de solution miracle, parce qu'en fait on paye le prix aujourd'hui de décennies d'inaction et d'absence de réorganisation du système et d'absence d'anticipation des besoins de la population française qui est plus nombreuse, qui vieillit plus longtemps, qui a besoin de plus de soins, alors même que depuis les années 70, on a instauré un numerus clausus pour former moins de médecins. Parce qu'à une époque, on a pensé qu'avec moins de médecins, il y aurait peut-être moins de malades et que ça coûterait moins cher.
Alors le numéro s'ouvre, alors c'est pas trop pour tout de suite, hein, parce que ça se forme longtemps, un médecin, le numéro s'ouvre. Assia était très contente du service qu'elle a reçu, même s'il y a passé 5 heures, effectivement une entorse, après tout, pardon Assia, c'est pas si grave, c'est juste désagréable. Hugo Wuhan, est-ce que vous diriez qu'il y a un risque de maltraitance au fond, auprès de certains patients, quand on attend 5 heures, qu'on a mal quelque part, qu'on a peur, qu'on est en stress?
Oui. Alors déjà, Assia, merci pour votre reconnaissance ou pour vos propos. C'est vrai qu'on a plus souvent tendance à se rappeler des personnes qui nous insultent que de celles qui nous félicitent pour le travail fait. Moi, quand je travaille, je me raccroche à mon humanité tous les jours par rapport à la violence symbolique qui est très forte dans les urgences, sur des situations médico-sociales qui sont hyper complexes et une impuissance des soignants au quotidien. Donc ça, c'est très dépersonnalisant, avec en plus une saturation des services qui fait un effet de sélection. C'est-à-dire que quand vous avez, mettons, 100 places et que vous en avez 150, eh ben, il faut bien que vous choisissiez les personnes que vous allez... mieux traité que les autres. Donc oui, c'est, enfin, il y a un risque de maltraitance énorme.
Et vous les choisissez en fonction de quoi, pardon, mais à un moment, il y a un critère, on se dit celui-là, il a moins mal, donc j'irai tout à l'heure, c'est comme ça que ça marche?
Il y a plein de biais. Enfin, par exemple, on sait que les personnes sans domicile fixe sont souvent sous-triées à l'accueil, c'est-à-dire qu'elles vont attendre plus longtemps que les autres. Bon, voilà. Après, c'est les critères de la SIMU, mais... Non, oui, oui, enfin, maltraiter, la maltraitance institutionnelle, maltraiter les soignants, c'est maltraiter les patients, in fine, c'est sûr.
Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Thomas Meunier?
Tout simplement, les services d'urgence sont progressivement organisés avec des filières courtes, des filières plus graves, et les patients sont pris en charge dans l'ordre de leur gravité, tout simplement.
Vincent, bonsoir.
Oui, allô?
Allez-y, on vous écoute, Vincent.
Oui, bonsoir, madame. Voilà, alors, donc en fait, ma question était en lien avec l'explosion du nombre de consultants qui a doublé depuis 20 ans aux urgences. Mmh. Et donc... cette explosion sur 20 ans, elle coïncide aussi avec la fin de l'obligation pour les médecins généralistes d'assurer un tour de garde, de permanence de garde d'urgence dans les villes et dans les cantons. Vous aviez jusqu'au milieu des années 90, dans le journal du coin, les coordonnées du médecin de garde. Et je pense que si on remettait cette obligation en place, l'obligation pour les patients voulant aller aux urgences de devoir d'abord contacter un médecin généraliste de garde dans le canton, dans la ville ou le village, on diminuerait fortement l'afflux aux urgences. Donc j'aimerais avoir le sentiment en particulier de votre invité député et médecin.
Eh ben merci. Pardon.
Et puis un dernier corollaire, j'aimerais bien que les députés prennent aussi en compte, excusez-moi, j'ai du mal parce que je suis un petit peu...
Allez-y Vincent, prenez votre temps.
J'aimerais que toute personne dorénavant qui serait responsable d'une voie de fait, d'une insulte, d'une agression vis-à-vis d'un personnel soignant, quel qu'il soit, soit traduit immédiatement en justice et qu'il soit sanctionné avec des sanctions particulièrement fermes et exemplaires.
Merci.
Parce que je trouve ça inadmissible, les agressions contre les soignants, les jets de pierre contre les voitures de pompiers, etc. etc.
Merci.
Et je pense que là, il y a quelque chose au plan juridique à faire, de manière à ce que les sanctions soient exemplaires et dissuasives.
Vincent, vous avez entendu, merci beaucoup. Je vous ai vu sourire, Hugo Wuhan. J'imagine que, bien sûr, oui, vous remerciez Vincent pour cette remarque, et en même temps, j'imagine très bien ce que ça doit être quand vous avez tellement de choses à faire dans un service d'urgence que de porter plainte à chaque fois que vous vous faites insulter.
Ah oui, enfin, personne ne le fait, c'est banaliser énormément les violences.
Je voudrais qu'on revienne sur le fond de ce que nous dit Vincent Thomas Meunier sur l'obligation qui était faite avant. Je voudrais ajouter cette question qui vient d'Éric sur franceinter.fr et qui dit « J'étais généraliste en ville jusqu'en 2004. Nous étions tenus à organiser des tours de garde de nuit et le week-end et cela permettait de prendre en charge des patients qui désormais arrivent aux urgences. » À quel moment, du coup, cette obligation-là, est-ce qu'elle est maintenue dans certains endroits? Est-ce qu'elle a sauté dans d'autres? Ça se passe comment?
En fait, en 2002, avec la loi Kouchner, l'obligation individuelle pour chaque médecin généraliste de faire des gardes a été supprimée. Et il persiste une obligation collective de s'organiser pour qu'il y ait un médecin de garde chaque soir, mais il n'y a plus d'obligation individuelle. Donc de fait, ce qu'on appelle la permanence de soins ambulatoires, c'est-à-dire
mais
le médecin de garde...
J'ai pas compris, ça veut dire que s'il y a trois médecins, on décide lequel est de garde et puis il tourne, c'est comme ça c'est...
En fait, la difficulté, c'est que globalement, la permanence des soins ambulatoires existe toujours. Il s'avère que si un médecin ne veut pas y participer.
D'accord.
Actuellement, il n'est pas tenu de le faire, du moment que le collectif sur place maintient une garde. Et après, on a une grande difficulté, c'est que du fait de la non-anticipation des besoins et de la formation des médecins, il y a des territoires, nos auditeurs le savent, où il y a moins en moins de médecins et où ils sont si peu nombreux que ça devient impossible de tenir une ligne de garde.
Est-ce que ça aiderait si on réorganisait cette obligation-là, s'il y avait à nouveau une obligation qui était beaucoup plus fixe et beaucoup plus claire d'un médecin de garde qui est là, effectivement, qui participerait à désengorger les urgences?
Alors, à condition qu'il y ait assez de médecins sur un territoire pour tenir la ligne de garde. Après, globalement, là où ça tient, et ça tient quand même dans l'immense majorité des cas, il y a une garde qui est régulée par le 15, qui est peut-être, selon les endroits, un peu sous-employée, qui pourrait l'être davantage, et qui effectivement permettrait, en généralisant les maisons de garde, les maisons médicales de garde par exemple, de désengorger un peu les urgences. Mais en fait, ce qu'on a pris, on a pris le parti, nous, plutôt, d'organiser sur la journée, entre 8h et 20h, la prise en charge de ce qu'on appelle les soins non programmés, donc c'est-à-dire le besoin de consultation qu'on peut percevoir, et de façon à ce que toutes ces consultations-là soient réalisées entre 8h et 20h, ce qui fait qu'elles ne se décalent pas sur le début ou la fin de soirée.
Il y a une autre remarque qui est frappée au coin du bon sens, qui nous vient sur franceinter.fr et qui nous dit « mais les gens vont aux urgences souvent quand ils n'ont pas de mutuelle ou car ils n'ont pas de mutuelle ». Et c'est vrai ou pas, ou pas du tout? Non, vous faites non tous les deux.
Non, enfin, la dernière étude de l'Adresse montrait que c'était 1%, je crois, des patients qui venaient pour une histoire financière.
C'est une idée reçue.
Eh ben voilà, ben comme ça, au moins, on est là aussi pour regarder ces idées reçues-là. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Eric.
Oui, merci. Donc, ça tombe bien la discussion. Je suis président de la maison de garde du Pays d'Auray. On est 80 médecins et ça fait 14 ans qu'on a monté ça. Donc, on a énormément désengorgé l'hôpital de Vannes. Je suis maintenant le président d'une communauté professionnelle territoriale de santé dont l'objectif est d'organiser la santé de ce territoire. Donc, et à ce titre, nous avons proposé à l'hôpital de Vannes, au GHT, que des libéraux cet été, parce que la moitié des médecins seront en vacances, et 80 urgentistes nous manquent en Bretagne pour équiper les services d'urgence, eh bien c'est que des généralistes libéraux aillent à l'entrée du service d'urgence en journée, trier tous les patients qui arrivent à l'hôpital. C'est-à-dire que tous ceux qui sont adressés avec un courrier d'un collègue rentreraient sans souci. Ça veut dire que s'ils ont consulté quelqu'un et qu'un avis a été donné, eh bien on ne bloque pas cet avis puisqu'on ne met pas en doute la compétence de notre collègue. Et que si un patient arrive à l'hôpital sans avoir été évalué par personne, eh bien ce serait ce médecin libéral qui serait chargé de cette évaluation et de trouver une consultation dans les médecins du territoire, puisque globalement, en tant que libéraux, on connaît nos confrères, et moi je suis membre de l'Union régionale des professionnels de santé libéraux, l'URPS, eh bien ce serait aux URPS, avec leurs acteurs, de trouver et de créer ces agendas de journée où il y aurait toujours un petit quart d'heure pour recevoir un patient dans nos consultations. Et donc cette expérimentation, je vais la proposer à l'ARS avant le 17 juin et j'espère la mettre en place dès début juillet sur le Grand Pays d'Auray et surtout le secteur est du Morbihan avec l'accord du GHT, je l'espère. Alors que quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « mais vous savez, ça n'entre pas dans mon programme ». Et le directeur d'avant avait quasiment fait un rictus quand je lui avais proposé ça parce que effectivement, l'argent des urgences, c'est quand même un argent important pour faire tourner un hôpital. Et je comprends qu'un directeur, quand on lui dit ça, voit tout de suite ses chiffres dans sa tête s'aligner et panique par rapport à son budget.
C'est la question que j'allais vous poser, en fait. C'est-à-dire, quand c'est organisé par vous, ça veut dire que c'est à charge d'emploi ou c'est payé comment? Par l'hôpital? Comment vous voyez l'organisation de ce que vous nous décrivez?
C'est ça. Moi, je suis régulateur SAMU depuis 10 ans. La nuit, je suis payé au forfait à l'heure. J'ai un budget pour une heure.
Okay.
Et je propose que l'ARS me donne ce même budget à l'heure en journée pour faire cette évaluation, prendre mon téléphone et trouver une consultation chez un confrère, soit dans la grande ville où il vient de consulter, soit près de son village où il habite.
Et alors, puisque vous le proposez, Eric, après je vous lâche, c'est promis, ça veut dire que vous avez consulté vos confrères et que vous êtes tous d'accord, en fait, pour rentrer dans ce système-là?
Non, il n'y a pas besoin d'être tous d'accord. Il suffit de trouver d'abord des médecins qui acceptent sur leur journée, leur semaine, de donner une demi-journée et d'aller aux urgences faire le tri, premièrement. Et deuxièmement, de trouver sur un territoire suffisamment de patients, de collègues qui accepteraient le retour. Et j'ai fait une évaluation sur mon territoire de 80 médecins, alors que 40 sont en vacances en juillet. Globalement, aux urgences, il y a 10 actes par jour pour mon territoire. Alors 10 actes pour 40 médecins, franchement, je vous trouve tout de suite une consulte, je vous l'assure. Donc dire que les libéraux ne pourraient pas apporter leur aide à ce système, c'est faux, parce que nous avons cette expérimentation et cette logique. Et je rappelle que quand j'ai créé la maison de garde à 14 ans, j'ai eu les huées de tout le monde, de l'hôpital, de l'ARH, des pharmaciens, etc. Et que maintenant ils disent bravo tout le monde. Donc il faut faire confiance aux libéraux qui ont des idées, mais surtout, il faut les aider à les porter. Et je salue Monsieur Thomas Meignet, chez qui j'avais raté un rendez-vous parce que j'avais complètement oublié avant qu'il écrive son bouquin. Donc, ça faisait partie des projets que je voulais présenter. Comme aujourd'hui, vous êtes là.
Et ben voilà.
Voilà, comme on va travailler ensemble, je l'espère, Thomas.
Comme
voilà.
Ça, il a entendu. Faites comme chez vous, Thomas et Eric. qu'est-ce que vous dites de l'initiative d'Eric, Thomas Meunier, précisément ?
Avec plaisir pour le rencontrer, on pourra organiser ça. On est tout à fait d'accord, en fait. Je pense que, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas chercher de bouc émissaire. Les médecins libéraux sont avant tout la solution et sont pour beaucoup très moteurs là-dedans pour trouver des solutions. Ce que propose monsieur, c'est exactement ce que je propose dans un rapport d'une mission précédemment confié par Agnès Buzyn dans un rapport que j'ai remis l'année dernière. Ça se passe déjà sur quelques territoires. Il est à Vannes, j'étais il y a un mois à Belle-Île-en-Mer. Il y a un système un peu similaire qui s'est mis en place et ça fonctionne.
Tiens, on a beaucoup de messages qui nous disent de médecins qui disent qu'ils finissent bien après 17h30 et qu'ils sont pas contents. Et on est content de dire que oui, on sait que certains médecins finissent bien après 17h30. Pourquoi les médecins de ville ne posent plus de points de suture comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années et renvoient systématiquement aux urgences? Est-ce que vous savez, Hugo Houillon, s'il y a des gestes désormais qui sont devenus les vôtres et qui ne sont plus ceux des médecins?
Les nôtres, vous voulez dire?
Les nôtres aux urgences. Les vôtres aux urgences, je voulais dire, ouais.
Pour ce qui est des
sutures. Que des médecins ne veulent plus faire, en fait.
Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent plus faire ou parce qu'ils ont plus le temps, ou je sais pas pour quelle raison ils le font plus. En tout cas, il y a un aspect qu'on n'a pas développé encore, c'est que même si vous augmentez la PDSA, la permanence des soins ambulatoires, il y a aussi un risque de judiciarisation de plus en plus important dans la société. Et donc, il y a beaucoup de médecins libéraux, même de régulation pompiers ou SAMU, qui renvoient des gens aux urgences par peur de faire une erreur. C'est l'affaire Naomi. Maintenant, tout le monde nous envoie des gens aux urgences. Pour ce qui est des points de suture, je sais pas, peut-être que M. Meunier peut mieux répondre.
Alors, point de suture ou pas, est-ce qu'il y a des gestes désormais quand on est médecin de ville, on ne fait plus? En fait, c'est pour ça qu'on renvoie aux urgences. Et il a raison, Hugo Houillon, sur la judiciarisation aussi, qui est devenue beaucoup plus importante.
C'est une problématique très forte, la judiciarisation, pardon, dans le monde de la santé. Pour ce qui est des gestes, oui, il y a de moins en moins de médecins généralistes qui réalisent des sutures, tout simplement parce que dans leur pratique, ça leur arrive assez peu fréquemment. Et quand ça arrive, c'est en urgence et ça désorganise complètement la consultation. Donc certains en font toujours, mais de plus en plus, et surtout quand ils sont installés à proximité des hôpitaux, ils renvoient vers la médecine d'urgence.
Yacine, bonsoir. Allez-y Yacine, vous êtes le dernier, promettez-moi de faire court mais on vous écoute.
Oui, bonjour, je suis donc le docteur Amar Jadel, moi je suis médecin urgentiste dans le 67 depuis 2003, diplômé donc du praticien hospitalier, donc c'est-à-dire un peu le concours de fonctionnaire donc depuis 2006, et là je vais déménager plus vers Paris. Je suis dans le 77, et en fait il y a donc des hôpitaux comme Tenon, comme la Riboisière, donc qui manquent de médecins, et moi j'ai proposé donc de venir travailler là-bas, mais on m'a dit « ah ben non, vous avez un statut avec un CDI, donc un contrat à durée indéterminée ». Comme vous êtes fonctionnaire, nous, on ne peut pas vous embaucher parce que c'est un statut trop privilégié. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se plaint des intérimaires, mais moi, on m'a demandé de venir en tant qu'intérimaire pour pas me donner un poste. Je vais être payé assez cher, hein, à 1100 euros la garde. Mais par contre, donc, on me demande, par contre, je peux pas garder mon statut de fonctionnaire, enfin, de, voilà.
Merci donc beaucoup, Yacine. C'est quoi cette incohérence, ce côté kafkaïen de l'administration, Thomas Meunier?
Il faut regarder le cas individuel. Globalement, quand on est praticien hospitalier, c'est-à-dire le statut de médecin fonctionnaire à l'hôpital public, on exerce dans un hôpital et on peut demander sa mutation dans un autre. Et là, dans la loi qu'on est en train de voter au Parlement, on va permettre un peu plus de souplesse pour permettre, par exemple, de travailler sur deux établissements différents ou de travailler à la fois à l'hôpital et en ville.
Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Ce dernier message, il est pour vous, Hugo Houillon. Il dit « Je sais bien que je n'apporte rien au débat, mais je voudrais juste dire un grand merci à tous ces urgentistes pour les avoir beaucoup fréquentés moi-même, mes enfants ou mon mari. Nous avons toujours été reçus avec beaucoup de patience, de gentillesse, de professionnalisme, même s'ils étaient débordés avec ou pas leur brassard de gréviste. » Voilà, qui vous permettra peut-être de passer une meilleure soirée.
Merci.
C'est avant tout ça, les urgences.
Merci à tous. Portez-vous bien.